bienvenue au Polysécure. Je suis avec Vincent.
Salut!
Salut! On consacre les shameless plugs, COVID, faites-vous vacciner si vous êtes éligible, lavez-vous les mains, masque, double masque si vous croyez vraiment d'avoir besoin de vous protéger à ce point-là. La semaine numérique, la rediffusion a commencé au moment où on enregistre, ça vient juste de recommencer. Jusqu'au 19 juin, il va y avoir possibilité de réécouter les conférences, dont celle du Sécure, et une panoplie d'autres conférences très intéressantes aussi qui sont relatives à la sécurité à travers les autres événements. Donc, on vous invite à aller voir si vous avez vos billets. Et bientôt, il va y avoir des billets de réécoute qui vont être disponibles. Donc, vous allez pouvoir aller écouter en rediffusion les conférences pour probablement moins cher. J'ai pas l'information, mais probablement pour pouvoir justement aller chercher ces connaissances-là qui a le potentiel de vous intéresser. Et je termine les shameless plugs en parlant d'Incidence, un nouveau podcast avec Virginie Arsenault, très intéressant. Elle fait une démarche exploratrice au niveau de la sécurité et de la démarche podcast. Donc, c'est très intéressant parce qu'elle explore beaucoup d'affaires, beaucoup de styles différents, très, très recherchés. Donc, je vous invite à aller voir, je sais dans les shows notes, ou à écouter plutôt qu'à aller voir. Commençons avec les sujets. Puis, je vais commencer par Vincent, dans le fond, qui est essentiellement une suite là, avec Facebook, là, l'énorme piratage des 533 millions de données qui étaient supposément pas si personnelles que ça, puis finalement que ça devait être plus personnel que ça, et le voilà.
Alors oui, fuite en ligne le 4 avril dernier, base de données d'un demi-milliard d'individus de notre univers connu, mais bon. Pour faire une suite à ça, j'ai trouvé un petit article intéressant. C'est un chercheur en sécurité par la section Motherboard du magazine Vice qui a décelé qu'il y a un outil disponible sur le réseau social et la messagerie intégrale, Telegram, qui est en mesure de fournir des numéros de téléphone précis, mais pas de ceux qui sont dans la fuite de données. Parce que la fuite de données, les utilisateurs, on sait, sont encore là, mais probablement qu'il y a des mesures qui ont été prises et pas prises, bien entendu. Mais on parle de tous les autres utilisateurs. La façon est très simple. On peut utiliser le robot. Alors, on entre le code d'identification unique de la page Facebook dont ils veulent obtenir les numéros de téléphone. Donc, il s'agit à ce moment-là d'obtenir le fameux identifiant unique. Il y en a encore beaucoup qui pensent que l'identifiant, c'est votre adresse courriel. Dans certains cas, oui, mais des early users of Facebook à l'époque, on entrait effectivement notre adresse courriel pour obtenir notre identifiant. Mais on a un authentifiant qui est unique justement à Facebook, qui a été créé à l'époque, soit par le robot ou peu importe. Puis du moment qu'on tombe sur un identifiant qui est valable, eh bien ça retourne le numéro de téléphone qui est au dossier justement de la fiche numérique Facebook de l'utilisateur en question. Et puis à partir de là, avec ces informations, ben on est en mesure de récupérer une panoplie d'autres informations liées au numéro de téléphone pour de la publicité ciblée, du poking justement malveillant, ou encore avoir de l'information supplémentaire pour cibler peut-être des personnes plus précisément, puis aller acheter des listes sur le dark web pour justement usurper l'identité ou faire du tort à ces gens-là. Du moment que les numéros de téléphone sont toujours actifs, sans que l'utilisateur Facebook a justement changé de numéro de téléphone puis n'a pas mis à jour ses informations. Alors, un petit tour de passe-passe, by the way, qui est gratuit, là, selon le chercheur. Et puis, il y a sa preuve de concept où il a récupéré justement de l'information qui était valable. Puis, avec cette information-là, ben, il pouvait soit aller se coucher puis l'oublier ou poursuivre des actions malveillantes pour obtenir du crédit, faire du tort, etc., etc. Alors, voilà. Petite suite en fait qui concerne pas la fuite, mais un autre problème là qui semble toucher Facebook à ce moment-là.
Ouais, ben ce que tu relates un peu, c'est tout ce qu'on peut qualifier de l'OSINT. Puis d'ailleurs, tu m'as envoyé un super site sur ce sujet-là cette semaine qu'on aura l'occasion de discuter dans un autre épisode dans lequel on aura eu le temps de l'explorer davantage. Mais justement, le croisement des données qui sont publiques, justement, vient créer un certain nombre de problèmes de cette nature-là. Fait que c'est pour ça qu'en même temps, c'est quand les gens disent qu'une fuite n'est pas problématique. C'est vrai que s'il était allé tout seul dans l'univers, il n'y aurait pas de problème. Mais malheureusement, cette fuite-là s'additionne aux autres. Fait que ces données-là vivent quelque part. Plus à toutes les données qui sont rendues publiques, disponibles de différentes façons qu'on peut les récupérer en OSINT. Là, on se trouve avec une façon de recréer un profil d'une personne assez aisément. Puis c'est sûr, cette faille-là, elle est problématique. Puis tant qu'à parler de cette faille-là, puis là, tu parles justement... Là,
Juste rajouter un petit truc. Tu mettras le lien vers le petit outil OSINT là, que je t'ai envoyé cette semaine. Si les gens veulent le consulter, vous irez travailler avec. En fait, c'est le concept d'idée d'information de son point d'origine. Vous allez voir, c'est un arbre. C'est un arbre à plusieurs branches. Cliquez dans les petits points selon les différents critères. C'est intéressant. Par exemple, information qui est l'adresse courriel. À partir d'une adresse courriel, quand on veut retourner au point d'origine ou si le point d'origine, c'est l'adresse courriel, c'est la quantité d'informations qui peut être rattachée à ça. Vous avez à peu près une trentaine, justement, de critères très méta, très uniques puis distinctifs, avec d'innombrables branches qui ramènent vers une source d'origine ou vers une destination, un outil assez le fun que, justement, j'ai envie de tester dans les prochains jours.
C'est ça, on aura l'occasion de creuser davantage cet outil-là dans un futur épisode. Puis d'ailleurs, là, c'est l'autre aspect que je voulais amener parce que le problème de la fuite de Facebook, c'est toute cette quantité-là d'informations rendues disponibles. Donc, la capacité de ficher les gens et ainsi de suite. Puis là, c'est tout le volet de multifacteurs. Puis là, Microsoft est sorti d'ailleurs récemment sur ce volet-là en disant que 99% des attaques de sécurité se font sur la base du mot de passe. Donc, l'usage du multifacteur devient un élément essentiel dans toutes les sphères de notre vie. Là, on parlait de Facebook dans ce cas-ci. Fait que si votre téléphone n'est pas activé sur le Facebook, faites-le parce que vous êtes susceptible de vous faire hacker votre compte. Même si Facebook est quand même assez efficace pour limiter les attaques, il demeure que si votre mot de passe peut être retrouvé ou de quelconque façon, puis le multifacteur n'est pas activé, votre compte devient vulnérable et ensuite le bordel de le récupérer et tout ce qui s'ensuit et tous les dommages humains qu'ils peuvent avoir autour de ce genre d'éléments-là. Fait que c'est très important, même si ça amène un certain degré d'irritation. Pour ceux qui utilisent les produits Microsoft, sont habitués avec l'Authenticator, qui lui fait un push. Fait que ça, c'est déjà plus allégé que d'avoir un PIN. Et Google aussi a adhéré avec ce genre d'approche-là aussi, et Yahoo aussi. Donc, il y a plusieurs systèmes maintenant, puis même Facebook à la limite, là, parce que l'application Facebook sur le téléphone va popper quand une authentification n'est pas reconnue. Et elle est autorisée à travers l'application. Fait que maintenant, on peut même plus dire que c'est compliqué, on peut même plus dire qu'il y a une irritation, on n'a plus besoin de dire « Ah oui, mais c'est un SMS ». Non, tout ça n'existe plus. Fait qu'il n'y a plus vraiment de prétexte maintenant pour ne pas utiliser une méthode comme ça. Puis si vous voulez aller vraiment plus loin, bien, allez utiliser des technologies de type FIDO2, comme la YubiKey, par exemple, en fait partie. Donc, vous êtes capable de vous équiper. Puis à la limite, on est toujours un peu responsable de notre sécurité à terme, donc et encore plus dans les entreprises. On est dans une situation un peu de cette nature-là. Basculons de nouvelles. On va faire pas mal de suivi sur d'autres problèmes qui ont eu lieu. On revient sur SolarWinds. Dans ce cas-ci, une petite information intéressante sur SolarWinds. Il a été découvert par... c'est Crabb qui l'a rapporté du moins. Le fait qu'en août 2020, dans Virus Tata, il y avait quelqu'un dans une agence américaine qui avait soumis un code malicieux associé à tout le problème de SolarWinds. Donc, ça veut dire que même déjà en août 2020, il y avait des gens qui étaient conscients du problème, qui avaient déjà des soupçons que ça arrivait, cette situation-là, puis donc ça se passait déjà. Quand ça a entendu jusqu'à décembre avant de savoir plus officiellement et d'avoir des correctifs puis de comment jouer avec ça. Puis ça devient important, puis c'est sur le timeline, puis comment les informations sont diffusées, qui savait, qui a agi, puis pourquoi. Ça devient très, très touchy, puis très intriguant comme investigation, puis comment de voir comment les choses sont déroulées. Mais ça veut dire à quel point aussi l'attaquant russe en question, parce qu'on suppose encore que c'est un russe, les Américains sont fâchés contre les Russes, puis là, il y a eu des représailles diplomatiques. Donc, là, il y a une petite chicane diplomatique entre les deux pays. Puis là, on va présumer que c'est les Russes qui sont en arrière. Mais on n'a pas de preuves hors de tout doute. Cela étant, fait que là, on suppose ça, fait qu'ils ont quand même réussi à faire ce genre d'attaque-là. Puis dans cette démonstration-là où Crabb parle, c'est que là, on voit des enchaînements de vulnérabilité aussi. Là, il y a eu ça, le SolarWinds, qui est l'espèce de porte d'entrée universelle qui était utilisée pour rentrer dans les réseaux des compagnies, qui est une chose, et qui a muté aussi de toute apparence. Mais ensuite, il y a d'autres vulnérabilités, dont celle qui était dans l'article qui fait référence, c'est celle de VMware, qui ont enchaîné des vulnérabilités supplémentaires pour aller casser encore plus loin les réseaux. Fait que c'est vraiment fort, les gens qui sont en arrière de cette attaque-là. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de compétences, puis c'est vraiment fascinant. Je suis très curieux, j'aime ça voir ça, comme voir à quel point les gens ont été brillants pour monter ça. Mais en même temps, c'est un avertissement très, très, très sévère sur que le fait qu'on doit avoir des designs d'entreprise beaucoup plus robustes, on doit avoir des chaînes de confiance beaucoup plus robustes. Vincent, toi, c'est dans la séparation des rôles. Ça, c'est un univers de cette sorte. C'est très important d'avoir une séparation des rôles qui est cohérente. On parle de SolarWinds. La personne qui écrit du code n'est pas celle qui va mettre le code en production. C'est deux personnes distinctes, justement, pour éviter que quelqu'un pousse du mauvais code. Donc, il y a toutes ces notions-là qui doivent être regardées puis dont on doit repenser, parce que là, maintenant, on a clairement des gens très brillants qui vont s'attaquer à nous autres. Oui?
Écoute, ça devient insidieux pour les compagnies spécialistes en sécurité dans ces situations-là. Puis j'aime les compagnies en sécurité. Ils sont bons habituellement. Ce qui devient insidieux, c'est qu'une compagnie de sécurité se fait scraper sa sécurité lorsqu'elle indique et se vante de son modèle de sécurité, sa méthode, ses démarches, son approche. Ce qui est insidieux, c'est que ça les met sur le spot. Ils ont mauvaise réputation, mais on sait que ces gens-là sont compétents, on sait qu'ils sont rigoureux, mais l'opinion publique fait dire le contraire. Manque de compétence, manque de rigueur, mais ce qui est insidieux, c'est que ça force d'autant plus ces compagnies-là d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus justement de rigueur et puis de s'assurer justement de challenger justement leurs infrastructures, leurs méthodes de sécurité, leur approche, leurs métaux constamment. Je dis pas de se réinventer à chaque fois, mais ça leur demande une très grande rigueur. Et puis, au travers de toute cette chaîne-là d'événements malheureux pour SolarWinds, je ne sais pas si SolarWinds avait peut-être le démarrage, justement, d'informer sa clientèle pour d'éventuels rehaussements. N'oubliez pas, hein, il y a des fournisseurs comme SolarWinds où ils fournissent l'infrastructure, justement, de sécurité. Vous savez comme moi que c'est pas toutes les patchs de sécurité qui donnent la stabilité à une infrastructure. Ça prend des tests. Il y a des patchs de sécurité qui rendent ça instable. Il y a des clients pour lesquels l'infrastructure est pas prête à recevoir les nouveaux principes de sécurité, justement. Il y a aussi eux autres qui sont tributaires justement de leur clientèle, qui sont moins rigoureux, moins assidus. Fait que je veux que vous ayez une petite pensée, le fun pour eux autres, là, c'est des bonnes compagnies, puis on en a besoin de ces compagnies-là. C'est des artistes, sont novateurs, ils ont des bonnes idées, c'est des artisans là, dans leur domaine.
Ah, tout à fait. Puis le but, c'est pas de mettre du spot SolarWinds. Puis à mon impression, l'attaquant aurait réussi à atteindre sensiblement la même chose, peu importe la compagnie qui s'en serait pris. Ils ont choisi SolarWinds dans ce cas-ci parce qu'elle était implantée majoritairement dans les agences américaines qui semblent être la cible principale de l'attaquant. Donc, on a utilisé un vecteur, puis là, c'est malheureusement SolarWinds qui a goûté dans ces circonstances-là, puis toutes les compagnies qui utilisaient ce produit-là lui ont goûté par le fait même. Microsoft, son code source a leaké. Firewall, son réseau a été rentré. Vraiment, ça a été très dommageable ce qui s'est passé là. c'est là où c'est un rappel important. De renforcer ces barrières-là qui, en apparence, ont l'air d'être des irritants ou des empêchements de travailler. On l'entend souvent, celle-là, mais c'est à terme, quand on regarde le grand ensemble, ma petite frustration personnelle, elle est vraiment juste personnelle parce que quand on le prend macro-entreprise, ces contrôles-là sont nécessaires justement pour éviter des situations comme on a connu avec SolarWinds. Mais pareil, puis c'est encore là, je dis, n'importe quelle compagnie qui aurait été attaquée par ces attaquants-là ultra spécialisés n'aurait probablement pas fait le poids de toute façon. Fait que c'est pas spécifiquement SolarWinds qui est le problème, mais plus l'approche occidentale à ce genre de choses-là. Puis là, c'est là où c'est insidieux. C'est qu'on dit aux gens, mettez à jour. Et c'est à travers une mise à jour que tous les clients de SolarWinds se retrouvent à être infectés. Fait que là, on est comme dans le revers de ce qu'on dit normalement. On dit, mettez à jour. Mais là, pas tout le temps. Parce que là, ça peut être dangereux quand vous mettez à jour. Fait que là, on a comme une réflexion de cette nature-là. Puis ça amène aussi toute la réflexion sur le Zero Trust, sur le fait que ces logiciels-là doivent être isolés d'une façon ou d'une autre, justement, parce que là, on peut même plus supposer que nos chaînes d'approvisionnement sont sécuritaires. Donc, du moment où tu peux même plus présumer de ça, tu vas prendre d'autres moyens pour assurer que si tu as un incident malheureux comme celui-là, qui a touché beaucoup de compagnies d'organismes publics, au moins on soit capable de limiter les dommages qui sont en conséquence. Fait que c'est un peu dans cette perspective-là. Et tant qu'à parler de pages de sécurité, on va revenir sur Exchange. Ça fait encore couler beaucoup d'encre aussi. C'est un problème aussi, dans ce cas-ci, pas aussi majeur ensemble, aussi de sophistication comme l'a été SolarWinds. Mais dans ce cas-ci, c'est une vulnérabilité très importante qui a été largement exploitée. Puis tiens, ils ont ressorti au mois d'avril le patch Tuesday, en ressorti encore une autre batch avec Exchange. Fait que ça a été vraiment la cible. Il y a eu vraiment des gens qui en veulent à Exchange, j'ai l'impression, ces dernièrement. Oui, ils ont trouvé un vecteur très intéressant pour rentrer dans une compagnie comme SolarWinds. C'était un vecteur très intéressant parce que très répandu, très bien utilisable, très facile pour le malveillant de prendre ce chemin-là. Là où ça devient troublant avec les correctifs, puis là, tu parlais de correctifs, justement, Vincent, là, c'est comme certaines compagnies tardaient à mettre à jour leurs infrastructures Exchange, le FBI a pris sur lui d'aller chercher un mandat qui l'autorisait à forcer les mises à jour sur les exchanges américains, j'ose espérer, qui étaient vulnérables. Fait que là, on se retrouve dans un contexte où la police vient mettre à jour ton système chez vous et tu disais, il faut des fois les tester. Mais là, ils ont peut-être brisé des systèmes, puis ils ont peut-être brisé des choses sans le savoir. Fait qu'en termes de responsabilité, c'est très troublant. Mais en même temps, ça nous amène sur le fait que si tu n'es pas capable d'entretenir tes infrastructures, shooter dans le nuage, puis le laps de temps, puis là aussi, le laps de temps, tu dis, faut que je fasse mes tests, ça va faire tomber une production, blablabla, bien, cette fenêtre-là est rendue très petite, puis des fois, fuck, mets ta patch, puis si ça crash, renverse en arrière, parce que maintenant, on est capable avec la virtualisation, mais patch tout de suite. Puis si ça va pas bien, tu renverseras après. Mais patch avant. Ça, c'est comme frappe puis poser question après. Bon, on est à peu près dans ce contexte-là. Frappe avec ta patch. Puis si ça casse, tu poserais question. Mais si ça casse pas, avance. Puis là, on est vraiment rendu dans un modèle comme ça. Parce que là, c'est rendu que la police doit venir, ou dans le fond, dans ce cas, si on prend une autre analogie, disons, les pompiers, ils vont défoncer chez vous parce qu'ils ont vu de la boucane, puis ils shootent de l'eau partout dans ta maison. Si effectivement, il y avait un vrai feu, c'est très bien parce que ça va éviter des dommages, ça va éviter la propagation, ainsi de suite. Par contre, si c'est une fausse alarme, puis ils ont arrosé ta maison, puis ils ont tout détruit, ben là, c'est un peu moins le fun. Là. Même si c'est parti d'une bonne intention, l'effet total est pas intéressant. Puis à la limite, ils devraient plus mettre à l'amende, vous fermez le serveur, tu sais, ou vous mettez un mandat pour fermer les choses au lieu de prendre l'initiative de le corriger. Mais bref, ça... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de grands penseurs légistes qui vont parler de ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions dans le milieu de la sécurité là-dessus, là, parce que tu sais, ça passe de tout le monde d'entièrement d'accord à tout à fait en désaccord, puis des gens qui sont outrés. Là, fait que c'est très polarisant comme sujet. Très intéressant. Toi, quand tu le vivrais dans en entreprise, que, disons, au Canada, le GRC arrive chez vous, ou le SRS ou le CST arrive chez vous, patch ton serveur, bye! T'as rien à faire. Puis peut-être qu'ils disent même pas en plus, c'est parce qu'ils l'ont patché à travers le web. Là. Fait qu'ils rentrent pas chez vous. Il n'y a pas chez vous, ils patchent. Ils patchent à travers la faille qu'ils ont découvert. Ils rentrent à travers la faille, patchent, ferment, puis ils s'en vont. puis tu sais pas, puis t'as peut-être un courriel qui dit « Ouais, by the way, on a peut-être corrigé des affaires. » Ensuite, qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment eux autres?
Ah ben écoute, c'est simple. J'invoquerai le deuxième amendement américain. Alors, c'est un inside entre Nicolas et moi, ça, on en a discuté tantôt. Non, écoute, effectivement, c'est drôle puis pas drôle à la fois. Moi, je trouve que c'est beaucoup d'ingérence fédérale. Probablement, comme tu l'as dit, les compagnies ciblées, ça doit être probablement des ministères fédéraux, des agences, en fait, des agences piliers. Non, c'est des compagnies privées, tu dis? Ah non, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais pas fait ça. Non, je suis une compagnie privée. Il arrive avec un mandat. Écoute, est-ce que... Première des choses. Ma première question, c'est ont-ils été informés, les compagnies? Ont-ils eu des sommations? Ont-ils eu le temps de se revirer de bord? Première des choses. S'ils sont débarqués de façon baveuse et arrogante avec un mandat, je préparerais probablement une poursuite. Par contre, ça c'est mon opinion. Mon autre opinion, j'aurais probablement fait ça autrement. Moi, j'aurais embauché le farfadet de la fibre optique. Puis je serais allé couper le fil à la source. Pow! J'aurais dit, écoutez, on vous a informé, on vous a donné un échéancier, vous ne nous avez pas appelé, vous n'avez pas mis à jour, on coupe. L'équivalent de couper, ça a peut-être le même effet que l'équivalent de patcher. Probablement qu'il y a certaines compagnies qui ont il y a peut-être un salesman qui était numéro un depuis plusieurs années dans la compagnie, qui s'est retrouvé avec une boîte vide. Puis des contacts complètement vides puis irrécupérables, c'est pas impossible. Moi, j'aurais tout simplement coupé le service, point. J'aurais coupé le service, j'aurais coupé le fil. J'aurais coupé le fil en disant, on vous a informé, etc. Oui, j'aurais dit, écoutez, vous le faites pas, vous êtes informé. Mais encore là, la façon dont tu parles, on dirait qu'ils ont fait ça de façon précipitée, baveuse, arrogante. Beaucoup de compagnies ont des avocats. Puis les compagnies qui n'ont pas d'avocats, maintenant, ces compagnies-là ont des avocats probablement gratuits puis qui sont en train de préparer des poursuites pour aller se faire des millions de dollars.
Ouais, mais en même temps, c'est pour ça qu'ils sont allés se faire dédouaner à la cour, aller chercher un mandat avant de faire leur manœuvre. Moi, j'aurais préféré peut-être plus une approche de santé publique, c'est-à-dire on coupe ton Internet tant que tu n'as pas corrigé. Point.
Bon, donc,
sens-là, tu t'endommages pas, mais tu limites le problème. Justement, tu fais... Ben, t'es confiné chez vous, t'as une quarantaine, règle tes problèmes, quand t'auras fini de régler tes problèmes, on va te réadmettre dans le grand Internet. Entre les deux, t'as pas d'affaires sur le grand Internet. Mais c'est fait pour les grandes personnes, l'Internet. C'est pas fait pour ceux qui savent pas ce qu'ils font. Fait que c'est ça, puis c'est sûr que c'est un débat très polarisant parce que les gens sont plus ou moins d'accord avec cette approche-là, mais moi, je suis beaucoup plus... T'as pas d'affaires là, on devrait... fermer ta connexion Internet le temps que tu corriges ton problème. Puis ça, c'est valide pour tout le monde. Tu sais, mes parents à la maison qui ont des bidules étranges à les compagnies qui sont trop pingres pour mettre à jour leur serveur devraient tous subir le sort universel de « ben tu t'en vas en quarantaine tant que t'auras pas réglé tes affaires. »
Mais tu sais, ils n'ont pas ciblé l'ensemble des compagnies. Tu sais, il y a peut-être d'autres choses qui ciblaient aussi. Il y avait peut-être l'intervention de faire ça. Il y avait autre chose aussi également en arrière de ça. Il y avait peut-être un autre dossier. Il y avait peut-être un autre agenda à ces interventions-là, chez ces compagnies-là. Moi, je pense qu'ils viennent de se mettre un petit peu dans le trouble en faisant ça, si tu veux mon avis.
Ça crée un très mauvais précédent. Ça, c'est sûr. Là, pour tout le monde est pas mal d'accord sur ce point-là des choses. Mais c'est un peu épeurant parce qu'on embarque dans une société de droit, une société un peu plus contrôlante où tu as un bras de l'État qui s'en vient jouer chez vous quand ça fait son affaire. Fait que là, puis même si c'est légitimé, je comprends que bon, y a un côté légitime à ça. Mais en même temps, non, parce que là, on vient brimer la liberté. Puis en plus, c'est ça qui est amusant, parce que les Américains, tu sais, ils vont, justement, tu parlais du deuxième amendement, mais liberté, le deuxième, tu sais, je veux faire mes affaires, tout ça. Puis là, d'un côté, pouf, ça se passe à côté. Par des gens, en tout cas, c'est vraiment très particulier dans le contexte que ça a eu lieu. Mais je pense qu'il y aurait dû peut-être avoir il devrait avoir une vraie réflexion sur la place publique. sur le, qu'est-ce qu'on fait avec les infrastructures vulnérables qui sont malgré tout dans les entreprises privées, dans les PME et chez les individus. Puis on a une vraie manœuvre. C'est le Japon l'avait fait pour les Olympiques. Là. Il avait commencé à scanner. Toutes les adresses du Japon ont été scannées par le gouvernement. En fait, où ça commence, où ça termine, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on veut pas. Puis là, on fait juste...
Puis tu sais, je vais mettre mon chapeau d'auditeur. Pas auditeur TI, là, auditeur point. Ils ont présenté un mandat. Donc, ils ont dû présenter une approche, une méthode. Ils ont dû expliquer le why, OK? Pour convaincre le juge. Puis le juge, avec un why, normalement, il n'est pas convaincu. Ils vont dire, OK, j'aime l'idée, j'aime l'objectif, j'adhère. Maintenant, qui avez-vous ciblé? C'est quoi votre méthode pour avoir ciblé ces compagnies-là? Puis, encore là, est-ce qu'ils ont pris un échantillon? Est-ce qu'ils ont pris une population? Est-ce qu'ils avaient un indice précis des compagnies qui étaient si affaiblies que ça par un manque de correctif au niveau de l'infra? Est-ce qu'ils répondent aux critères? Y a-t-il une liste exhaustive de ça? Moi, à être avocat, je commencerais par dire, je vous représente toutes, mais toi, le gouvernement, montre-moi ta liste de critères, montre-moi les tests que tu as faits, montre-moi le résultat. Démontre-moi que t'as pas ciblé au hasard, mais que tu as une vraie approche puis une vraie démarche. C'est un peu l'approche que je prendrais. Puis ensuite de ça, ouais. Y a-tu matière à discrimination dans le dossier, là? Puis l'autre élément, on va parler d'éléments croisés. Est-ce qu'une compagnie pourrait devenir un maillon faible pour une autre compagnie ou pour un distributeur ou pour une certaine chaîne, dans toute la chaîne d'approvisionnement? Oubliez pas l'effet domino. Hein? Au travers d'une entreprise, c'est pas compliqué. Ça prend le portable d'un collègue infecté pour infecter l'ensemble des collègues. Les compagnies sont tous sur Internet, puis dépendamment de leur cloisonnement entre elles et de l'assiduité des compétences du fournisseur du lien et du signal à bien cloisonner justement ce qui est public et privé. Il y a peut-être aussi des éléments là à considérer, d'être très mauvais, mais de vouloir offrir un service Internet, mais pas avoir un épais qui sécurise pas ses affaires, qui pourrait avoir un incident sur l'ensemble de la clientèle du fournisseur, ben ultimement, j'irais chez le fournisseur, pas chez le client, franchement, là. Tu sais, je pense qu'il y a toutes sortes d'éléments à considérer là-dedans. Je pense que c'est très complexe. Puis je suis surpris qu'un juge ait dit oui. Puis s'il a dit oui et qu'il y a toutes ces informations-là, OK, wow. Mais c'est quoi votre échantillon? C'est quoi vos critères? Puis c'est quoi votre population pour déterminer l'échantillon? Puis là, je vais adhérer au why, justement, là. T'sais, vendez-moi l'idée du pourquoi. Et voilà.
Ouais, j'espère que le juge a demandé le pourquoi, puis je pense j'aurais tendance à dire que oui, il aurait fait ça. Cela étant dit, c'est loin d'être sûr, puis des fois ça dépend de bien des facteurs, mais encore là, il faut revenir sur la discussion sur le fait pourquoi et dans quelle mesure à l'avenir on va autoriser ça, parce que c'est une première, ils ont ouvert les portes sur quelque chose qu'on va devoir réfléchir parce qu'on va devoir y arriver de toute façon. Fait que là on est Qu'est-ce qu'on fait avec la boîte de Pandore qu'on a ouvert et comment on encadre cette boîte-là pour qu'elle soit bien utilisée? Parce que d'un point de vue santé publique, je suis très d'accord avec l'encadrement que ça va mener parce que il va falloir qu'on arrive à quelque chose à un moment donné. Mais est-ce que ça, c'est l'approche qui a été prise et la meilleure? S'il y a place à débat, je suis pas nécessairement convaincu que c'est la meilleure approche. Ça peut être une des bonnes approches, mais peut-être pas la meilleure. Donc, ça serait justement à débattre énormément, puis voir comment tout ça va se dérouler dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis, tu sais, il va y avoir d'autres occasions où on a d'autres problèmes aussi majeurs que Exchange qui vont se présenter, comme SolarWinds est un problème aussi majeur que ça aussi. Fait donc, de ces moments-là, est-ce qu'ils vont à chaque fois détecter ça puis commencer à agir de façon... Non voulu, ils vont devenir des vigilantes, ils vont devenir des super-héros masqués qui vont devoir venir patcher nos serveurs. Non, je veux pas d'être nous, de calme-toi, là. Non. Mais tu peux, en même temps, dans ce compte-là, ben, trop, pogne-moi, donne-moi un permis pour être sur Internet, puis donne-moi une contravention parce que j'ai été trop vite sur Internet ou j'ai été mal été. Oui.
Je me demande aussi, c'est parti de où ça? Le FBI, as-tu obtenu une information? Le FBI, as-tu décidé de faire un jeu de Red Team, Blue Team, Violet Team sur l'ensemble de son réseau sur le territoire états-unien pour justement arriver à un tel constat? C'est une divulgation. Je trouve ça... Puis quand ils sont partis de là, puis qu'ils ont mis à jour, là, je sais ce qu'ils ont fait, moi. Ils ont appelé Microsoft, là. Ils disaient, hey, tes clients, ils citent, là. Ils ont des nouvelles licences. Faut que tu les envoies un bill. T'sais, ils ont fini avec un bill. Il y a certaines compagnies, probablement, là, que ça a pris sûrement, je sais pas moi, 2, 3, 4, 5 jours pour rétablir puis restabiliser l'environnement, les systèmes, récupérer les données étrangement disparues ou qui se sont cachées sous le tapis, je ne sais pas. Puis ils se ramassent en plus de ça, ce qui coûte de l'argent, puis en plus de ça, ils se ramassent avec un bill pour des nouvelles licences. Bon, pour certains, il y a certains groupes TI dans ces compagnies-là doivent se dire, ah ben, tabarnak, on devait livrer dans 3 mois, c'est fait les gars, c'est fait, puis c'est pas nous autres qui l'a fait, on est clair, on part nos autres projets. Écoute, on en rit là, mais ça finit avec un bill de licence là aussi, là, une facture.
On en rit, mais tu sais, j'en ai des clients de mon passé que je pense qu'il aurait été fait quand il aurait fait le party. Ouais, elle est bien, fait la job à la place. Ouais, party! Puis ça aurait sauvé de la job, là. Ce son n'est pas exclu dans certains cas.
Effectivement. C'est malheureux.
Au bout du compte, quand tu prends ça, mais c'est ça.
Puis, t'as peut-être un ciseau à côté du PDG, debout. Il regarde le PDG de haut en disant. Je te l'avais dit.
Ouais, ben c'est ça, surtout dans une drôle de chose. Ben, bref, si ça peut ramener la discussion, au moins ça aurait eu cet effet-là. On va voir ce que ça va avoir à terme. Puis ça va être intéressant de le voir. Mais oui, puis c'est vraiment, on termine sur cette nouvelle-là, ça donne quelque chose d'un peu plus drôle aussi, là, parce que maintenant, il faut en rire. Là. On est. C'est notre environnement est un peu trop sérieux. Puis si on fait juste être triste et tout le temps malheureux, on n'en sortira jamais vivant. Changeons de nouvelles. Encore un autre suivi sur des choses qui se sont déroulées avec d'autres fiascos de sécurité avec d'autres compagnies. Dans ce cas-ci, c'est Zoom. Zoom pas mal au début de la pandémie et avant aussi, parce que sur la French Connection, on avait abordé justement ce sujet-là aussi, sur le mauvais traitement à la sécurité qu'il avait fait pour le client Mac. De Zoom dans lequel il a essentiellement installé un backdoor dessus. Donc, il y avait tous ces éléments-là qui étaient discutés, puis un peu le laxisme de Zoom qui avait entouré tout cet élément-là. Donc, de ça, puis avec tout le fiasco du début de la pandémie, ben ils ont pris ça très au sérieux, embauché des gens très sérieux aussi, et ils ont fait des vraies avancées avec des vrais data centers dans beaucoup de pays, avec le respect, avec le chiffrement bout en bout. C'est sûr, il y a eu des moments où c'était juste pour les clients payants. Là, on pourrait discuter de leur modèle d'affaires, qu'est-ce que c'est, le fait que c'est comme un pusher, ils donnent 40 minutes, à l'époque, c'était 40 minutes gratuites. Mais là, ça, si tu faisais les vraies fonctions, ben là, faut que tu payes. Fait que là, tu sais, c'est un peu, c'est un peu discutable comme approche. Mais disons, mettons que ça. Fait que là, ils ont aussi ça adapté avec le temps. Il y a eu un certain nombre aussi d'autres choses que les clients payants ont eu comme amélioration de sécurité. Et la dernière amélioration de sécurité, puis celle qui pour moi est probablement, ultimement la plus, importante. Parce que pas qu'elle est technologique en soi, mais elle est faite pour que les utilisateurs ne se tirent pas dans le pied. Ou ne se mettent pas le pied dans la bouche et se tirent dans le pied, justement en mettant des avertissements à tous les endroits clés où ils peuvent créer un problème en ayant une conférence pas verrouillée, en affichant les informations qu'ils ne devraient pas, en oubliant de chiffrer la communication, en oubliant différents éléments. Donc, maintenant, ils commencent à guider les utilisateurs parce que Zoom, parce que là, j'allais prendre l'exemple de Teams à contrario, Zoom a énormément d'options. Si on s'y connaît pas, on peut se mêler très facilement. Parce que dans les anciennes versions, on pouvait se mêler très facilement. On pouvait faire des erreurs, puis il fallait vraiment être très attentif pour pas faire d'erreurs de sécurité, pour pas se justement se tirer dans le pied. Si on prend ce qu'il y a beaucoup de gens, puis au Québec, c'est en tout cas, le gouvernement du Québec, c'est très ça. C'est Teams, puis dans plusieurs autres entités à travers le Canada, c'est Teams qui est la solution utilisée. Ou dans le fond, la Teams est beaucoup plus refermée. Il y a beaucoup moins de chances à laisser des erreurs comme ça. Puis même Microsoft a pris des initiatives dans les derniers mois où a refermé certaines configurations par défaut qui étaient encore un peu trop ouvertes. Donc, ils ont tout basculé, ils ont tout changé, ce genre de choses-là. Fait que les autres aussi l'ont fait. Mais fondamentalement, c'est plus fermé Teams que Zoom et on a moins de chances de se tirer dans le pied. Donc là, c'est ça, il faut attention. Fait que ce changement-là, pour moi, est très important parce que Zoom, c'est mes parents, c'est plein de monde qui sont pas habiles en technologie, mais comme Zoom est rendu le Kleenex de la visioconférence, le Skidoo et le Kleenex de la visioconférence. Fait que c'est rendu la norme maintenant. Si on parle pas vraiment de Teams, on se fait un Zoom, même si c'est un Teams, un Hangout ou whatever ce qu'on utilise en dessous. C'est un peu rendu ça. Fait que c'est très important d'accompagner les utilisateurs plus néophytes dans ce genre de choses-là. Tu as l'air plus ou moins...
Non, je regarde les deux. Je suis libéral là-dedans. Là. Les deux méthodes sont bonnes, mais écoute, j'aime bien l'approche de Microsoft pour Teams dans la situation pandémique où il y a une augmentation fulgurante justement d'utilisateurs de fermer justement les options plus permissives peut-être graduellement, peut-être, alors ça, je sais pas, y aller en gestion de plainte ou en gestion de commentaires ou peu importe, pour graduellement peut-être ouvrir la plateforme, préparer la knowledge base justement là, pour instructer les gens. Hein, les instruire comme du monde, à lire les bonnes configurations, lire les instructions. On les lit pas, les instructions, habituellement, c'est pouf, j'appelle quelqu'un, je te vois, je suis content. Pas où je me fais appeler, tu me vois, t'es content. Mais il y a toutes sortes d'options. Tu sais. Fait que je préfère l'approche plus restrictive, donc... le petit père de famille un peu restrictif puis anxieux de voir son enfant courir partout à l'âge de 2 ans, c'est pas grave, hein? Dis pas que sa tête là, ça a jamais tué personne, puis on perd pas dedans 2 ans là, puis même si on perd une dent, c'est une dent de lait, ce n'est pas grave, c'est tout. Fait que, mais les deux approches sont quand même bonnes là,
Mais ce qui amène aussi à la prochaine nouvelle par rapport à ça, puis tant qu'à avoir comparé ça, dit que les plus grands problèmes en info numérique, c'est des problèmes de mauvaise configuration. C'est justement, là, on parlait dans le cas de Teams, qui est généralement très corporatif, jusqu'à temps que Microsoft l'ouvre au grand public. Avant, c'était très, très corpo. Donc, à ce moment-là, puis c'est là, c'est tous des administrateurs TI qui gèrent ça. Donc, c'est là, on remet dans leurs mains. Fait que là, dans le fond, là, je disais que Teams était meilleur pour ça, mais la réalité, c'est que oui, mais non. Teams va être meilleur dans la mesure où les administrateurs TI le gèrent correctement. Le problème avec Zoom, la façon que ça s'est propagé et s'est utilisé, c'est d'utilisateur vers la corporation. Dans le tel Teams, c'est de corporation vers l'utilisateur. Donc, l'approche n'est pas la même. Les habitudes sont pas les mêmes non plus. Mais encore là, en info nuagique, le plus gros problème, puis on l'a vu énormément avec les failles S3, les problèmes de config S3, les gens ont laissé leur bucket S3 ouvert tout nu sur Internet, puis ils s'attendaient, hey, ma base de données, il y a quelqu'un qui l'a lu, puis il s'est retrouvé sur le dark web. Ouais, mais dude, ton chose, tu l'as vu ouvert à la planète, là. Fait que c'est tous ces éléments-là qui sont d'énormes problèmes, puis que les gens ne comprennent pas facilement quand ils migrent de sur-site vers le nuage. Là, je suis dans un contexte où j'accompagne plusieurs clients gouvernementaux de migration sur site vers le nuage, parce que c'est un décret du gouvernement du Québec qui a beaucoup de bénéfices d'économie puis de rafraîchissement des plateformes. Par ailleurs, les gens, le réflexe qu'ils ont, c'est d'imiter leurs vieilles habitudes et parfois leurs mauvaises habitudes qu'ils ont sur site, qui sont dans leur grotte, parce que dans le fond, ton CTI, c'est dans ta grotte. T'as ton firewall qui est ton bon sens devant ta grotte, puis t'as ta grotte. Fait que les gens qui rentrent dans ta grotte, c'est plus difficile. Fait que là, les attaquants ont découvert d'autres méthodes pour attaquer ta grotte. Fait que, ils vont t'envoyer un phishing pour entrer dans ta grotte. Mais essentiellement, si on passe ce genre de choses-là, ils déplacent leurs choses mal sécurisées dans le nuage sans vraiment de bonne sœur. Puis là, on se retrouve dans des situations qui sont un peu désastreuses et ou très malheureuses aussi.
Je sais pas si Amazon, je veux pas mettre Amazon sur le spot là. Je sais pas si Amazon a fait un ajustement à sa config, mais la console de gestion de votre bucket Amazon, là, votre zone, là, c'est 12 heures d'inactivité avant de fermer la session. C'est le paramètre le plus restrictif de fermeture automatique de session sans activité. 12 heures. 12 heures, c'est une demi-journée. C'est bien trop long. C'est trop long. C'est un paramètre qui est nono, mais c'est comme ça que Deloitte, voilà 2 ans, le serveur Exchange s'est fait pirater, justement, parce que la console de gestion était restée ouverte sur une session RDP. Et puis, le délai d'inactivité n'a pas, justement, été atteint. La session est restée ouverte. Il y a des gens qui ont été en mesure d'exploiter ça. Je sais, c'est pas facile d'exploiter ça, mais du moment que la session reste ouverte, c'est plate, mais c'est bavard. Ben, la console de gestion Amazon, puis j'espère qu'ils vont ajuster ce paramètre-là. Moi, je leur conseillerais fortement. C'est 12 heures d'inactivité. C'est récent, l'information que j'ai eue. J'espère qu'il y a eu des ajustements. Sinon, ben, les admins de container Amazon, méfiez-vous. Malgré le double facteur, une session ouverte, c'est une session ouverte. Là, les vecteurs sont... Il s'agit d'une seule faiblesse et puis il y a du monde qui sont rentrés, là.
Oui, bien, tout à fait. Puis c'est, là, tu parles d'administrateur, puis c'est aussi une énorme source du problème parce que certains sont plus désinvoltes que d'autres face à la sécurité, donc ne mettent moins d'efforts ou s'en foutent littéralement de toutes les conséquences que ça a. Le 12 heures, là, je ne connaissais pas celle-là. Par contre, je connais plus au niveau des buckets S3 où quand il y a eu comme une épidémie il y a plusieurs années de gens qui laissaient leur bucket ouvert à l'Internet, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avant de l'ouvrir à la planète, genre tu as 6 avertissements. Tu veux-tu vraiment le faire? Là? Tu sais que c'est l'Internet tout complet. Tu es vraiment sûr que tu veux vraiment plus. Ça t'oblige quand même à un certain nombre d'étapes. Fait que là, rendu là, si c'est ouvert, tu as vraiment voulu te mettre dans la marde. Ou tu avais vraiment quelque chose à partager avec la bête. Parce que cette situation-là aussi est possible. Parce que tu sais, il y en a qui utilisent des buckets S3 pour le téléchargement de logiciels, pour le partage de fichiers, pour un certain nombre de choses aussi. Qui peut arriver. Mais si tu as une application corporative que tu fais là, puis tu te goûtes, pouf, tu mets vive les internets, mais c'est peut-être pas. T'es peut-être pas dans la bonne zone. T'es peut-être pas prêt pour l'info nuagique, là.
Ah. Non, t'as raison, garde. Après 6 avertissements, c'est désolé, mais t'es coupable. Il n'y a pas de procès, pas d'enquête préliminaire, il n'y a pas de jury, c'est terminé. Là. T'as volontairement fait. En fait, t'as démontré que t'as volontairement fait de la merde, mais bon.
Oui, mais il devrait y avoir des façons pour les administrateurs, soit peut-être de demi-désactivation des sessions, après des délais beaucoup plus courts. J'ai vu des choses qui ressemblent à ça. Genre où tu dois comme remontrer, genre que t'es un humain, ou tu dois remontrer quand tu réactives une session qui était inactive, disons, juste ton MFA ou juste. C'est pas une vraie réauthentification, mais quelque chose de mitoyen.
Ben là, t'es un peu dans le moyen. Je reviens à la base. Vous voulez de l'info nuagique? Fine. J'aime l'info nuagique. Ça va vous prendre un modèle. Là, je veux pas rentrer dans gouvernance, mais ça va vous prendre un modèle d'entreprise. Un modèle d'entreprise pour justement rôle, responsabilité, reddition, surveillance, qui va se décliner en framework, processus, activité. Ça, c'est d'autres choses. Comme Nicolas dit, on est plus dans les opérations, là. Mais remontez ça d'un cran, là. C'est votre business que vous envoyez là. Ça prend une responsabilité d'un point de vue comité directeur ou direction, appelez ça comme vous voulez, mais ça va vous prendre justement une démarche réfléchie. Vous allez devoir documenter pourquoi. Je vais revenir souvent sur le pourquoi. Je trouve ça le fun. Vous allez devoir documenter pourquoi. Pas les TI. Parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus vite. Non. Les affaires vont devoir comprendre pourquoi ils vont là, le documenter. Ça va créer des règles. Puis à partir des règles, va se décliner des activités de contrôle. Puis des paramètres de config, justement, qui vont répondre aux objectifs de contrôle. Mais bon, je ne rembarquerai pas dans le gros sujet, mais ouais. ça part de là. Souvenez-vous, hein, dans les années 60-70, un MVS coûtait tellement cher que le boss était impliqué à partir de l'acquisition, puis il était là samedi pour débarquer du cube toutes les boîtes puis faire l'assemblage. Je suis convaincu. Puis il se faisait expliquer à quoi servait l'ensemble des équipements qui devaient peser à peu près 7-8 tonnes. Puis chaque chose que ça pouvait apporter à sa compagnie y est impliqué. C'était beaucoup d'ingérence du boss, mais c'était beaucoup d'argent de sa part. Il y a eu un délestage, une délégation de rôles et responsabilités vis-à-vis de l'informatique au fil des ans, jusqu'à un point de rupture, je dirais dans les années mi-90, fin 90, où là, l'Internet a pris énormément d'ampleur, très bien connecté au Canada, très bien connecté aux États-Unis, l'Europe, connecté, mais très bien, avec Jacques Chirac, dans les années fin 90, début 2000, et plus. Puis à un moment donné, il y a eu une débandade. Il y a eu une débandade, puis je vais vous dire, une perte de contrôle et de responsabilité de la part des comités directeurs, trop de latitude, donc très restrictif dans les années 60-70, perte de contrôle dans les années mi-90, fin 90, début 2000, puis là, on tend. Voyez-vous, il y a 50 ans qui nous séparent, puis on revient à l'idée de base en termes de rôle et responsabilité de 50 ans. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on est conscient de la puissance, mais des problèmes puis des répercussions que ça peut engendrer. Puis je pense qu'on est en train de donner le ton, justement, que les rôles et responsabilités, en fait, l'idée de base du contrôle des années de 50 ans, des années 60-70, ben c'était quand même la bonne approche. Peut-être pas la bonne méthode d'application, mais c'était quand même la bonne approche. Mais bon.
De toute façon, ce qu'on utilise à l'heure actuelle, un ordinateur ailleurs, ce qu'est l'info nuagique, c'est exactement ce qu'on faisait avec la mainframe des années 70. Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Fait que, on n'a pas tant de nouveautés que ça dans l'univers de ce que c'est. Fait que, non, c'est effectivement. Changeons et allons vers la dernière nouvelle qui est la tienne, où tu fais peut-être mention un peu d'une nouvelle un peu plus proche de nous, chez Kanak.
Eh oui, le quincailler Kanak a été victime de cyberpirates. On dit pas exactement ici, cependant, ça doit être un crypto, probablement. Mais les systèmes, justement, de service à clientèle ont été totalement paralysés. C'est très en surface, là. Probablement plusieurs d'entre vous avez vu l'article, là. C'est une première déclaration qu'ils font. Sont en train de rétablir les services. Il n'y aurait pas d'informations présentement sur le dark web à ce jour, on ne sait pas encore. Et puis ils ont perdu 10 jours justement où les communications, comme ils disent, ont été orphelines. J'aime bien l'expression. Mais au niveau du service à clientèle, au niveau des commandes, au niveau des livraisons, malheureusement, le service à clientèle devait fonctionner à l'aveugle. On le sait là, ça coûte cher tous les équipements de rénovation, le bois, il y a une forte augmentation de prix, probablement qu'ils ont été submergés avant cette augmentation là. Ils devaient se préparer pour les livraisons, puis à un moment donné, pow, là ils tombent à l'aveugle. Le printemps est là, les gens restent à la maison, les rénovations vont bon train justement. Fait qu'il y a probablement un paquet de monde où il y a beaucoup de chantiers qui ont été retardés. Je parle à monsieur, madame, tout le monde résidentiel. Je parle aussi aux compagnies qui, au niveau commercial, qui ont dû souffrir justement de ça. La répercussion est assez phénoménale. J'ai hâte de voir si il va y avoir une suite justement à ça. Kanak, c'est quand même un bon gros fournisseur de chantiers dans le petit univers québécois. Mais malheureusement, c'est ça. Ils ont été victimes, comme ils disent, le 9 avril dernier. Et puis, ils ont constaté des problèmes. Et puis, il y a même des paiements qui ont été affectés au travers de ça. Mais il semble, la façon dont le texte a été écrit, il semble pas y avoir un énorme stress de la compagnie, mais c'est sur un ton très neutre. Là. C'est pas alarmiste, pas pessimiste, c'est pas joyeux non plus. Là. C'est très, très neutre. Alors, à suivre, et puis bonne chance au quincaillier.
Oui, bonne chance. C'est bien, on est encore un peu dans le cas où les PME sont mal outillées face à ces affaires-là et se font prendre malheureusement dans ce genre de choses-là. Là, eux autres ont payé, ils sont en fait pognés publiquement, là, c'est connu, fait que ça les a pénalisés aussi financièrement jusqu'à un certain point. Mais s'ils étaient valables, pas peu stressés, comme tu disais, fait que l'informatique, tu sais, de mémoire, je crois que Canac ne repose pas tant que ça sur leur système informatique pour fonctionner. Donc, la pénalité de fonctionnement pour les opérations n'a pas dû être si pire que ça. Mais c'est quand même un rappel important que tout le monde est touché. On a eu quand même Promutuel, Beneva dernièrement. On a eu toutes ces compagnies-là. C'est même au Québec, ils font plus de différence. Fait qu'ils veulent juste ramasser de l'argent, puis quand on est au passage, ben ils ramassent l'argent. Puis ben, pour Canac, j'espère que leurs systèmes qui ont été touchés, ils n'avaient pas d'informations confidentielles ou qui pouvaient leur causer du tort, parce que ce qu'ils font les pirates, si c'est en supposant que c'est un rançon logiciel, oui, ils ont voulu récupérer une rançon, puis il faut pas la payer parce que ça peut juste encourager le crime organisé à faire ça. Mais en même temps, ils ont volé l'information aussi. Fait que si il y a pas de paiement de rançon, ça veut pas dire que c'est la fin du pétrin. Là. Fait que le pétrin va continuer quand même parce que les informations, s'il y a des informations sensibles qui ont été touchées, là, on fait beaucoup de si, beaucoup de suppositions. Là. Mais avec ça, fait que c'est. Oui?
Mais, de toute façon, vous savez, je suis un consommateur de chez Canac. Là. Hein, je vais remplir ma bonbonne de propane. On va acheter des babelles. Du moment qu'on achète des produits justement de rénovation, je vois encore le format PaySport 3 copies. Autrement dit, ils ont tout de même des copies papier de l'ensemble des ventes qu'ils font, les livraisons qui sont prévues, etc. J'aimerais ça entendre dans une éventuelle suite que le bon vieux système de papier carbone leur a donné un coup de main pour se sortir du pétrin. Le papier, la preuve, la traçabilité, c'est encore là, il y a rien de mieux que ça. C'est pas un backup de l'information numérique, mais c'est un maudit bon backup justement pour reprendre les choses en main, donc mettre en marche les bonnes vieilles méthodes, puis dire hey, on se retrousse les manches, on rentre le dimanche, puis en fait on rentre. Façon de parler, on est en confinement, je comprends bien, mais on livre des caisses chez nos employés. On se retrousse les manches, on paye du temps supplémentaire, on appelle les clients, on assure les livraisons, on check le stock, gros l'inventaire, pow! Puis on prend des notes, puis après ça, on fait une saisie d'un système une fois que c'est revenu, là, puis on rattrape le temps perdu.
Ouais, ben je pense que c'est ça, puis je l'ai mentionné, je pense que justement, Canac n'est pas super informatisé. Fait que c'était un avantage dans la situation. Ça a pénalisé certaines nombres de choses, mais quand même. Mais en même temps, si on veut espérer qu'ils s'informatisent, puisqu'il y a quand même des avantages certains à s'informatiser, sans perdre de vue les contrôles papier et les moyens de continuer d'affaires, c'est d'être capable de retourner les cartes de crédit, copie carbone, le schlung-schlung, puis tout ce genre de choses-là. Puis là, j'avais déjà vu, peut-être pas chez Canac, mais j'ai déjà vu chez certains commerçants où il y a une panne des terminaux électroniques, ben ils retournent sur les vieilles machines. Puis c'est encore ça le backup pour continuer à fonctionner la business. Ça va leur coûter cher à processer après parce que faut prendre du monde, tout filtrer ça, prendre en note, envoyer ça chez les compagnies. Mais bon, minimalement, c'est une façon de faire continuer la business, fait que les ventes continuent, la business continue quand même.
Ouais, mais l'autre côté de la médaille que je vois, mettons que mon rêve se réalise, Canac fait une suite à ça, le papier carbone leur a sauvé la vie. Ça n'engage pas l'adhésion de la haute direction à totalement transférer vers le numérique. Le papier les a sauvés. Par contre, j'espère qu'ils ont un médium très persuasif qui va leur dire que l'un n'empêche pas l'autre, le temps de la transition, bien entendu. Mais en tout cas, j'ai ma petite image, puis je pense que vous aussi, vous avez compris ma petite image dans ce dossier-là. J'espère que Canac, c'est une grosse compagnie. Je pense que c'est une bonne compagnie, c'est en santé. Ils ont sûrement des plans innovateurs dans le numérique. J'espère que cet incident-là les retardera pas leur avènement pleinement numérique, mais va justement les faire réfléchir à des pistes de contrôle et de sécurité pour justement éviter que ça se reproduise. Puis oui, éventuellement, quitter le papier. Hein, les entrepreneurs là, qui achètent en grande quantité, traîner du colline de papier carbone, puis pas l'oublier chez vous quand tu vas chercher la commande le lendemain matin sur le chantier, puis t'as 16 tonnes de bois à livrer, tandis qu'il a tout le temps son téléphone sur lui. Ça pouvait être beaucoup plus électronique, c'est beaucoup plus portable, moins de papier. Mais bon.
Ouais, ça commence, mais ça dépend des. Ça dépend vraiment des compagnies. Là. J'ai eu affaire avec. J'ai eu un mini sinistre à la maison. Enfin, j'ai eu Sinisco puis Boucher l'Ortie à la maison. Autant Sinisco est arrivé, le représentant avec son iPad, il a saisi ses affaires, il a pris ma signature, paf, 100% numérique. Fait que lui, ça a été traité probablement quasi instantanément. J'arrive avec Boucher l'Ortie. Là, avec le papier, justement, 3 copies, et il écrit son bout de papier, les travaux qu'il a fait. Bon, ça va me coûter une galette parce que, tu sais, quand tu fais bouger des plombiers, ben, ça coûte généralement très cher, fait que ça va me coûter la galette, là. J'ai pas hâte de voir la facture qui va aller avec ça. Mais bref, ils ont sauvé ma situation, puis en moins d'une demi-journée, mon sinistre était réglé. Donc, ça, mais c'est ça, t'as vraiment les deux univers dans lesquels j'étais confronté dans le même après-midi, avec des gens de cet univers-là, de plus à construction, plus de cet univers. Ça, fait que c'est très intéressant de voir comment il y a oui, mais il y a non. Puis est-ce que ça vaut la peine d'informatiser aussi? Là? Est-ce que le bénéfice, il est vraiment là? Dans le cas de Sinisco, étant donné qu'ils font beaucoup affaire avec des compagnies d'assurance, qu'ils autres aussi doivent être très informatisés. La mécanisation du traitement doit être très rentable dans la vitesse de paiement. Fait que pour eux, c'est très avantageux de l'opérer comme ça. Boucher l'Ortie font beaucoup moins du sinistre, font plus des problèmes et des choses plus standards. Donc, eux autres n'ont pas cette nécessité-là de mécaniser les processus de facturation au même niveau que Sinisco. C'est pour ça que Canac non plus, peut-être pas le besoin de mécaniser tant que ça non plus, mais il y a toujours un bénéfice. Fait qu'il faut juste qu'ils trouvent la zone.
Ah, écoute, tu l'as super bien amené. T'as vraiment bien amené ça, Buddy. Incroyable. La mécanisation, le business case, l'avantage, la plus-value, tu l'as super bien dit, hein? Sinisco, compagnie d'assurance. Ben oui, c'est sûr. Les appels ponctuels, là, doivent être pas mal plus rares qu'un appel après sinistre. Puis t'as raison, le plombier, il n'y a pas nécessairement de business case pour justifier justement une acquisition de licence d'un produit existant ou le développement. Je ne sais pas s'il y a un ordre de plombier au Québec ou au Canada. Sûrement des programmes de progiciels ou quoi que ce soit. Mais encore là, c'est des coûts, c'est des investissements, etc. Mais tout business case est différent. La chaîne d'approvisionnement. J'aime ça appeler la chaîne justement d'approvisionnement qui justifie justement le besoin, là. Rapidité de paiement, réception de la commande pour justement dispatcher les équipes, passer les listes de prix. Puis dans plusieurs cas, les listes de prix sont préétablies avec les compagnies d'assurance. Maison, plein pied, sous-sol, premier, unifamilial, X 1000 pieds carrés, sinistre, sous-sol, un pied d'eau, paf, s'étend. Certaines marges à négocier pour le prix. Paf, j'ai une équipe, je débarque, c'est réglé. Le paiement est parti, c'est pas long, là. Mais bon.
Oui, c'est ça, c'est toute l'efficacité. Puis, bref, on est dans un univers de service, mais tout ça était très intéressant. Puis ça va conclure nos sujets pour cet épisode. On a quand même couvert un bon nombre de sujets très intéressants et encore là, on a fait beaucoup de choses autour. Donc, avec tout ce qui se passe, patchez vos affaires, soyez en sécurité, faites le nécessaire, faites pas les nouvelles, s'il vous plaît. Pas parce que vous avez caché, mais parce que vous avez bien fait vos choses. Et bonne semaine, Vincent.
Oui, bonne semaine, vous aussi. Hey, puis en passant, on peut survivre au COVID. J'ai survécu. je l'ai pas pogné, by the way. Mais quelqu'un dans mon entourage proche l'a pogné, puis j'ai réussi à pas l'avoir.
C'est bien. T'es chanceux.
Alors sur ce... Salut!